Dans la jasette qu'on va avoir aujourd'hui avec Annie Boilard, Dany RH. Ça fait longtemps qu'on lui a pas jasé. C'est une collaboratrice de l'émission. Puis on s'est envoyé quelques sujets. On s'est relancé cette semaine, Annie et moi. Puis le Canadien en faisait partie. Parce qu'on le veuille
ah oui.
ou pas, quand ils ont gagné le match 7, on était fous comme la merde.
Fait oui.
que c'est sûr qu'au bureau, le lendemain, ben, t'es de bonne humeur. C'est
oui.
le fun. Il y a un sujet de conversation autour de la machine à café. On dirait que, je sais pas, ça joue sur le moral des troupes. Aujourd'hui, ben, tout le monde parle du Canadien. Mais tout le monde est comme un peu boubou, mais pas nécessairement beau dehors. Tu sais, il y a des choses comme ça extérieures qui viennent comme affecter un peu notre mood, je vais dire. Et la question qu'on se posait, c'était est-ce qu'on est plus heureux au travail quand, par exemple, il fait beau, quand les Canadiens gagnent en série? Donc, on va la rejoindre ce matin. Annie, bon matin.
Bonjour Audrey, bonjour Maxime.
Salut.
Salut. Fait qu'est-ce qu'on est plus heureux quand il y a des bonnes nouvelles de même qui rejoignent la majorité des gens? J'ai l'impression que oui, là.
Alors. C'est complexe le bonheur au travail, puis je vais essayer de le décortiquer. Pour répondre à la question, on a tous l'impression, tu sais, qu'on était plus heureux après la 7e partie que ce matin au travail. On a un petit peu sur une espèce de feeling. Hein?
Oui.
Fait que là, on se dit, mais est-ce qu'on est vraiment plus heureux? Fait que le bonheur au travail, d'abord, je vais comprendre qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, puis il y a beaucoup d'auteurs, mais il y en a une en particulier, Lewinowski, qui travaille en. Puis elle s'est attardée à comprendre comment ça fonctionnait le bonheur. Puis je vais expliquer pourquoi. À la fois, on a l'impression qu'on est un petit peu plus moche ce matin, c'était plus le fun après la 7e game, mais de l'autre côté, probablement que personne s'est cogné la tête au plafond du bonheur après la 7e partie en matière de bonheur professionnel, de bonheur au travail. On se dit, on se garde une petite gêne. Fait que voici ce qui se passe. Toujours selon cette chercheuse, notre bonheur est constitué de 3 composants. La première, c'est qu'il y a environ 50 % de notre bonheur qui viendrait d'une prédisposition naturelle, une espèce de prédiction à notre à être facilement ou moins facilement heureux. Fait que c'est quelque chose qui nous est très personnel. Ensuite, on a 10 % de notre bonheur qui vient de l'environnement. Les pourcentages sont très approximatifs, mais environ. Donc, quand on pense aux Canadiens qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ça va dans le 10 % de l'environnement.
Okay.
C'est pour ça qu'on se dit, ça nous affecte un petit brin, mais tu sais, on n'est pas pour personne est tombé, c'est pas la fin du monde, ou tout comme on se cogne pas la tête au plafond de bonheur. Puis, il y a 40 % de notre bonheur qui viendrait des décisions conscientes que nous prenons en lien avec notre environnement et autre chose. Donc là, ça revient, par exemple, si les Canadiens ont l'histoire des... On peut décider dans une équipe de travail de se dire, « Hey, pour la prochaine game, on va mettre notre jersey de l'équipe, on va tous mettre notre chandail des Canadiens, ou on va faire un pool, ou on va faire des prédictions comme Maxime en 6, ou on va faire... on va aller voir la partie ensemble, par exemple, on va se rencontrer quelque part. » Ça, ce sont des décisions conscientes qu'on prend en lien avec notre environnement. Donc, est-ce que nous sommes plus heureux quand les Canadiens gagnent? Je vous dirais légèrement plus heureux. Ça a une petite incidence dans notre morale collective parce que c'est le 10 %. Mais aux équipes qui auront décidé de faire plus, ben là, on peut chercher encore plus. On peut chercher jusqu'à 40 % de plus de bonheur. Mais encore, faut-il prendre action par rapport à ça?
J'ai l'impression que là, je vais peut-être ouvrir une grande porte puis on pourrait passer bien du temps là-dessus puis c'est quasiment tout un autre dossier. Mais tu sais, le télétravail là-dedans, ça vient être carrément autre chose aussi. Puis quand tu es tout seul chez vous, que le Canadien gagne ou perde, peu importe ce qui se passe, l'environnement, c'est pas tout le monde qui va être dans le même environnement. Tu vas pas jaser autour de la machine à café de la victoire ou de la défaite du Canadien. Fait que c'est ça. Ça ouvre une grande porte, une autre sur le télétravail quand... puis bon, on pourrait revenir sur les propos de Mme Duranceau hier aussi qui a dit qu'il fallait retourner au travail pour apprendre à vivre. Là. Mais c'est ça, hein?
Alors, ben, effectivement, le télétravail, l'isolement, la solitude au travail, c'est sûr que ça a des incidences sur plusieurs choses. C'est corrélé en certaines parties avec notre mobilisation, notre engagement, notre satisfaction au travail, aussi notre santé mentale, et ça peut aussi avoir des effets sur notre niveau de satisfaction et de bonheur. Quand il est question de télétravail, on parle souvent de satisfaction parce que il s'agit de voir quels sont mes besoins, puis mes besoins sont-ils comblés. Alors, ça ressemble plus à ça, la satisfaction. Puis c'est vrai, Maxime, tu as raison, ça a une gamme, une panoplie d'incidences. Puis fondamentalement, on sait que nous, l'humain, on est des bébites grégaires. On a besoin de se rassembler entre humains. Tu sais, je pensais quand il y a les games de hockey, quand il y avait la dernière game, puis que tout le monde se sont rassemblés, il y a 21 000 personnes au forum, alors que les Canadiens jouaient même pas là. C'est ça, c'est 21 000 personnes qui ont envie de regarder la game ensemble. Là. Ils l'ont tous regardé à la télévision en même temps, mais c'est tout ce qu'ils ont fait. Il n'y avait pas de joueurs sur la glace. On est des gens qui aimons être avec du monde. Alors, c'est vrai que si on sent beaucoup d'isolement et de solitude, ça a une incidence. Et on a une pensée tout particulière pour nos jeunes travailleurs, nos 30 ans et moins. On sait que les études démontrent que de plus en plus, les gens vivent à la fois de la solitude, à la fois de l'isolement. Si vous voulez, je peux définir la différence entre les deux. Puis que ça a une incidence pour eux. Ces
Ben,
gens-là ont particulièrement besoin d'aide.
c'est drôle, je veux qu'on parle un peu de ça parce que je me demandais, tu sais, là, on parle du Canadien, là, mais on a effleuré l'histoire de la température. Puis, tu sais, souvent, on dit que novembre, puis le printemps, ça a donc ben un impact sur le moral. Est-ce qu'il y a des statistiques ou des études ou comment va le moral des troupes en général ces temps-ci au travail?
Alors, on a certaines études sur le sujet, notamment si on se demande ces temps-ci, le printemps 2026. Pour moi, un des indicateurs, c'est l'indice du bonheur au travail de ADP, qui est une firme qui font du sondage à travers le Canada. Puis mensuellement, ils vont voir l'état des troupes. Puis là, présentement, selon les dernières données disponibles, au Québec, comme travailleurs, nous sommes somme toute assez heureux. Nous sommes dans les Canadiens les plus heureux au travail,
Bon.
avec une notion de 7 sur 10. Quand on le regarde par âge, ce sont les baby boomers qui sont les plus heureux au travail. Donc, puis ça revient typiquement dans ce type de sondage-là. Nous, au Québec, on est plus heureux que la moyenne des Canadiens. Et ce serait parce qu'on a une prédisposition à être un peu plus confiant par rapport au futur. On est moins préoccupé, on sent moins que nos emplois sont menacés, on sent qu'il y a plus de pérennité dans notre sécurité financière. Donc, pour ce qui est de, je dirais, l'état des troupes présentement, c'est à peu près ça. S'il y a des gens qui se disent qu'est-ce qu'ils racontent là, eux autres? Moi, au bureau, autour de moi, les gens sont pas si heureux que ça, là. J'ai envie de nous rappeler, il n'y a pas très longtemps, il y avait une étude qui avait été publiée dans le New York Post. Puis ce que ça donnait, ça révélait qu'on a tendance à surestimer notre bonheur au travail par rapport aux autres. Fait que je vous explique comment ça s'était passé, l'étude. Ils sont allés voir des gens et leur ont demandé comment tu sais, votre niveau de bonheur au travail. Puis les gens ont dit en moyenne 8 sur 10. Ils ont 80 % de bonheur. Ils ont demandé à ces mêmes personnes, selon vous, si on demandait à vos collègues, qu'est-ce que vous pensez que vos collègues répondraient à cette question? Puis c'est moins de 50 % des gens qui ont dit, mes collègues auraient une réponse similaire à la mienne. Ça veut dire que parfois, si on a l'impression que les autres sont pas si heureux que ça au travail, c'est parce que quand on y pense, quand on se demande la question les uns les autres, comment ça va au boulot, on a tendance à parler un petit peu des irritants, des critiques, des frustrations. Puis ça nourrit l'impression qu'on n'est pas si heureux que ça.
Ah oui, on se
Mais
craint.
dans les faits, on est plus heureux qu'on le pense. Puis tu sais, Audrey et Maxime, vous allez être d'accord avec moi, on peut pas être tous plus heureux que la moyenne des gens au travail. C'est pas comme ça que ça fonctionne, une
Non.
moyenne. Il faut que ça soit différent. Donc, non, on aurait un biais dans notre perception sur le bonheur des
Mais je
autres.
trouve ça intéressant, Annie. Je reviens aux 10%, mais je trouve ça fou parce que, encore une fois, il y a une question de perception. Puis je trouve ça intéressant de voir comment se décline le bonheur, puis le fait que les impacts extérieurs, comme la météo, le Canadien, tout ce qu'on voudra, c'est juste 10%, si on veut, de notre bonheur. Je trouve que ça remet les choses en perspective. Puis il y a une chose qui est certaine, c'est que ces sujets-là qui rassemblent une majorité de gens, que ça devienne positif ou négatif, je pense que le fait d'être capable de s'en jaser, la fameuse machine à café, là, la fameuse nouvelle du jour, j'ai l'impression que c'est surtout ça, des fois, qui va contribuer peut-être à notre petit bonheur quotidien. Je vais nous amener sur un autre sujet, Annie, que tu m'as envoyé, que je trouve super intéressant, parce que début mai, le premier, la semaine de travail de 40 heures a eu 100 ans. En mai 1926, la semaine normale de travail est passée de 6 à 5 jours. Puis bien, la question qu'on se pose, c'est 100 ans plus tard, est-ce que c'est le temps de passer à la fameuse semaine de 4
La
jours? Parce
semaine de
que
Pékis.
ça, on en parle depuis des années et des années et des années, puis j'ai envie de t'entendre là-dessus.
Eh oui, on l'oublie, hein, que fut un temps où on travaillait 6 jours semaine.
Ouais.
Puis ce que moi me fait particulièrement sourire, c'est quand on va voir les rubriques de journaux à l'époque, il y avait des employés, parce que, bon, pour la petite histoire, c'est Henry Ford, des voitures Ford, qui fut le premier à observer que passer 40 heures par semaine, les gens étaient moins efficaces puis ils faisaient plus d'erreurs. Fait que c'est lui qui a décidé de ramener, de passer la semaine de 6 à 5 jours, puis qui a de rémunérer ses employés 100 % de leur salaire. Les gens perdaient rien. Puis les répliques de journaux de l'époque nous montrent qu'il y avait des employés qui étaient en désaccord. Parce que les employés disaient, ça va être anxiogène de faire en 5 jours ce qu'on a l'habitude d'accomplir en 6 jours. Puis je nous le dépose parce que quand on pense à la réalité 2026 puis qu'on pense à la semaine de 4 jours, c'est les mêmes arguments qui
Mais
reviennent.
oui.
Ouais. Alors là, la grande question que tu poses, est-ce que c'est le temps de penser de la semaine à la semaine de 4 jours? Bon, d'abord, démystifions les cartes, Audrey. Il y a le 4 jours semaine, payer 80 % du salaire. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est bien intégré dans nos mœurs. Là, généralement, les fonctionnaires peuvent se prévaloir d'un tel horaire. Les entreprises privées ont aussi beaucoup de flexibilité quand les gens en font la demande. Tu sais, 4 jours, payer pour 4 jours, ça,
Ouais.
c'est une chose. La grande question 2026, 4 jours, payer pour 5.
Ah, c'est ça,
Ça,
ton plein
ça fait couler
salaire.
de l'encre.
Oui, ben oui, c'est normal.
Oui.
Parce que c'est sûr
Sans
que,
concession de salaire.
tu sais, je pourrais pas en vouloir à mon patron de me dire, ben là, si tu as le même salaire, il faut que ce soit les mêmes tâches, puis faut que le rendu soit le même, là.
C'est ça. Puis ton patron aurait raison. Pour que ce soit pérenne dans le temps, il faut que l'entreprise maintienne sa productivité avec des employés qui travaillent sur 4 jours, qui sont payés pour 5. Parce qu'autrement, l'équation ne fonctionne pas. Et là, ça l'ouvre la grande, grande porte. Sommes-nous capables de courir plus vite si on court moins longtemps? Dans l'analogie, c'est si on travaille sur seulement 4 jours, alors pourrions-nous accroître notre productivité au point tel où il n'y aurait pas de perte? Et là, il y a différentes écoles de pensée qui cohabitent. Il y a des recherches qui démontrent que oui, mais typiquement, ce sont des recherches sur peu de temps. Mais par exemple, au Royaume-Uni, là, en 2023, il y a eu une recherche qui a fait couler beaucoup d'encre et qui démontrait qu'on était capable de maintenir notre productivité. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui vous diront, ouais, mais encore faut-il passer le test du temps de deux façons. Un, on a commencé cette partie de la conversation, Audrey, puis tu nous rappelais qu'on a la semaine de 5 jours à 100 ans. Il y a des gens qui l'avaient oublié, là. Donc, on finit par oublier ces affaires-là. Puis, on pourrait imaginer que dans 100 ans d'ici, les gens penseraient que la semaine de travail normale, c'est 4 jours, puis revendiqueraient une diminution de la charge de travail s'ils sentaient qu'il y avait trop de travail. Donc, le test du temps. Puis, le deuxième test, c'est, tu sais, on est tous capables de travailler super fort la veille de nos vacances annuelles, hein? On a une énergie
Oh
herculéenne,
mon
là. On
Dieu,
veut tout
oui.
finir avant de partir. Mais serions-nous capables de maintenir ça 52 semaines par année? C'est une autre question. Donc, derrière ça, pour que ça puisse fonctionner, il faut revoir la façon de concevoir le travail. Et c'est plus que juste une petite réflexion du coin de mur, là, de se dire, on va couper les réunions puis les discussions informelles autour de la machine à café. Il faut vraiment repenser le travail, accepter de faire les choses différemment. Et on va se le dire, ce n'est pas pour toutes les organisations.
Mais
Il y a
c'est
des
ça, ça doit
organisations qui y
dépendre,
arrivent.
c'est ça doit dépendre du corps de métier aussi, là.
Oui, effectivement, puis des habitudes de l'organisation. Il y a des entreprises qui sont déjà très, très, très efficaces. Alors, il y a peu de gras à couper autour de l'os, fait qu'il y a peu de gains à aller chercher. En contrepartie, il y a des entreprises où, des fois, il y a beaucoup de bureaucratie, et là, on est capable de maintenir la productivité en enlevant des activités à faible valeur ajoutée. Mais
Mais
c'est toute une activité de réflexion puis d'analyse qui doit être faite.
dans la réflexion, parce que je sais qu'il y a des entreprises qui fonctionnent comme ça, de dire, OK, on va travailler 1 heure de plus du lundi au jeudi, mais tout le monde va tout le temps avoir son vendredi après-midi. Fait qu'on va, ça va être un genre des semaines de 4 jours et demi. Puis en échange, ben toi, c'est ça. Tu travailles 1 heure de plus du lundi au jeudi. Là, ça commencerait à faire beaucoup d'heures par jour si on dit qu'on coupe complètement le vendredi puis qu'on fait 40 heures du lundi au jeudi. Mais pourrait y exister un genre d'hybride?
Oui, absolument. Maxime, ce que tu amènes dans la conversation, là, c'est délicieux, puis il y a des pays qui l'ont essayé. Puis là, je ne sais pas si tu as lu les mêmes trucs que moi, mais en Belgique, ils ont adopté une législation qui permet la majorité des employés de pouvoir demander à l'employeur de travailler, il appelle ça la semaine compressée, donc de travailler 4 jours de 10 heures, 100 % de leur salaire, puis le vendredi, ils ont congé. Ça ressemble un petit peu à ce que tu disais. Je te dirais, les résultats des courses ont été les suivants. Au début, les gens trouvaient ça vraiment sympathique, puis se sont prévalus de l'opportunité, mais ils sont revenus souvent pour la majorité d'entre eux aux habitudes antérieures parce qu'ils trouvaient que c'était difficile pour la consolidation vie personnelle, vie professionnelle. Mais bon, ça, c'était 4 journées de 10 heures. Toi, dans ton exemple, Maxime, tu avais 1 heure de plus par jour, plus le vendredi avant
Mais
midi.
c'est que j'ai l'impression que, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, moi, je veux dire, à 22 ans, dans une job-in, mettons, de début de vie, ou dans mon métier, mais j'ai pas de famille, j'ai pas de chum, j'ai pas. Écoute, je pourrais le faire, là, moi, faire 10 heures par jour, il n'y en a pas de problème, puis j'ai des fins de semaine plus longues, puis c'est le fun, puis. Mais j'ai le sentiment que du moment que ça n'implique plus seulement toi, ben c'est là que tu as peut-être besoin d'un équilibre un peu plus là, à travers ta semaine, puis c'est là qu'il faut que tu étendes justement tes journées.
Oui, c'est ça. Est-ce pas facile d'aller chercher les gamins à la garderie après une journée de 10 heures de travail, là?
Mais
Il est
non.
tard, rendu
Mais
là.
non.
Fait que c'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça la consolidation travail-famille. Mais Maxime, il y avait, tu réfléchissais à des alternatives, tu disais si c'est pas 4 ou 5 jours. Il y a une autre alternative aussi que moi je trouve sympathique. Il y a des entreprises qui ont essayé la semaine de 4 jours payée pour 5, qui ont rebroussé chemin, mais qui ont troqué ça pour l'idée d'avoir une banque de vacances additionnelle à la disposition des employés. Souvent, ils ont mis des règles comme quoi ces journées ne peuvent pas être collées les unes sur les autres. Donc, on voit, c'est le même esprit que la semaine de 4 jours. Mais ce qui se passait, c'est que les employés disaient, c'est rigide. Des fois, ils ont des fins de projet, des échéanciers. Puis là, on est restreint aux 4 jours semaine. C'est complexe. Alors, l'idée d'avoir une banque de vacances, même si elle n'est pas aussi généreuse que 52 vacances additionnelles, même si c'est juste une vingtaine de jours, ça permet aux employés de travailler 5 jours, payer 5 jours, mais de pouvoir insérer, insuffler des semaines de 4 jours au moment où ça leur convient et non pas de façon rigide, là, toute la même chose pour tout le monde. Fait que Maxime, quand tu ouvres la porte des alternatives, ça fait voir, tu as raison, des choses qui peuvent être intéressantes et pour les entreprises et pour les
Il y a
employés.
moyen de moyenner. Peut-être qu'on va arriver à une conclusion à un moment donné avec ce débat-là éternel. Annie, un gros merci, c'est un plaisir de te retrouver.
Mais très plaisir, bonne journée à vous deux.
Merci, Annie.
L'Open Mic avec Audrey Pinchot présenté